une espèce de, peut-être un peu de montrer, par exemple, on pourrait prendre l'exemple d'une attitude par rapport au complot qui a eu contre Adolf Hitler. C'est quand même, il y a plein de faits dans la biographie, il y en a deux qui sont marquants. Il y en a un, vous pouvez expliquer, c'est effectivement qu'en tant qu'officier de la Wehrmacht, dans les rues de Paris, quand il voit les Juifs avec l'étoile jaune, il les salue. Donc, c'est un officier de la Wehrmacht qui salue les enfants juifs qui passent ou par salut militaire. Et qu'ensuite, lors du complot, alors il ne va pas faire partie des résistants actifs, mais il a une sympathie réelle et engagée pour les désavouer plus tard. Pour ceux qui vous pensez, excusez-moi, ceux qui ont été ce qu'on appelait désavoués, donc ceux qui ont mené le complot. Quoi. Donc je pense que c'est deux points qui montrent aussi bien l'attitude de Juncker. Est-ce qu'on pourrait développer ces points?
C'est ça. Alors, le noble style est quelqu'un qui considérait que c'était quelqu'un d'une grande fierté. Hein. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il n'avait pas à se défendre parce qu'il n'était pas coupable. Et il avait refusé, par exemple, de remplir le fameux questionnaire des alliés sur la dédindification. Et il a été interdit de publication juste de 45 à 49. Et d'ailleurs, il était en zone d'occupation classe, il est venu ensuite en zone d'occupation française. Et là, ça s'est arrangé. Et il a dit quand même, on respire mieux quand on est chez les Français, qui ont un sens de la liberté et de la littérature différent de celui des anglo-saxons. Mais il y a un témoignage. Donc, il n'a pas passé son temps à étaler ses actions procédées. Et il y a un témoignage très, 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 très touchant d'un médecin juif, Georges C., qui a même publié une toute petite brochure sur un compte d'auteur chez des amis. Il avait été très très surpris parce que, sortant des librairies tenues par une juive, d'ailleurs très courageuse parce qu'elle n'avait pas voulu émigrer, mais continuer à tenir sa librairie, c'était justement dans les beaux quartiers où il y avait l'hôtel Raphaël, l'hôtel Majesté. Et sortant de cette librairie, il voit un officier qui le salue. Il portait l'étoile juive. Il ne s'était jamais expliqué ce que c'était. Et puis, quelqu'un de sa famille, beaucoup plus tard, lui dit « Mais j'ai lu le journal de Hitler, ça pourrait être lui. » Il a écrit à Hitler, qui a répondu « Mais oui, c'était la librairie de ma vieille amie juive chez qui j'allais acheter mes livres. C'est donc moi qui vous ai salué. » Et en ce qui concerne le fameux complot de Stauffenberg, une autre branche de la famille Stauffenberg, que celle qui possède le château de Mifflin.
Juste attention, c'est un micro. Il était en steak, on l'oublie.
Allez, Bayon, là, on m'entend toujours. Il faut protester ainsi. Il faut dire que Hitler avait. C'est un autodidacte qui s'intéresse à tout. Hein. Il s'intéressait aux récits de naufrage, les gens dans des situations de panique. Il s'intéressait aussi à l'histoire des attentats. Par exemple, l'attentat de Kieski contre Louis Philippe. Alors je voudrais qu'il était du côté des gens du Schleswig-Holstein qui posaient des bombes, mais pas pour tuer des hommes politiques, c'était pour détruire les perceptions qui prenaient leur argent. Mais il était très hostile aux attentats politiques. Il considérait qu'il ne faisait qu'aggraver les choses, et entraîner les représailles et éventuellement amener au pouvoir des gens encore plus catastrophiques que ceux qui détenaient jusque-là le pouvoir. J'ai d'ailleurs, j'étais réticent éventuellement par rapport à ça. Et puis, en ce moment, nous sommes en pleine commémoration, justement, de la guerre de 14. Il faut bien revoir que cette catastrophe qui s'est abattue sur l'Europe, c'est le produit direct d'un attentat, fameux attentat de Sarajevo, et on voit très bien, enfin, les gens nous remontent maintenant à quel point les grandes puissances, au fond, n'avaient pas envie d'aller à la guerre mondiale. Et puis, il y a une espèce d'engrenage, ça s'est fait comme ça. Moi, je pensais un peu que les gens qui avaient fait l'attentat de Sarajevo contre le prince héritier étaient télécommandés par les autorités serbes. J'ai l'impression que les historiens n'en sont même plus sûrs totalement aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des historiens parmi vous, que c'était peut-être un petit groupuscule terroriste obscur qui a décidé de ça. Et cet attentat nous a valu des dizaines de millions de morts et la fin de l'Europe. Enfin, la fin de l'Europe. Heureusement, non, hein, on résiste encore un peu. Mais enfin, ça n'a aucun rapport. Ça aurait pu l'être si les Français et les Allemands s'étaient entendus à l'époque.
Alors, justement, je voulais tout de suite sauter sur l'occasion, en l'occurrence sur l'entente franco-allemande. Junger a été un acteur symbolique de ça. Vous parliez de la petite taille auparavant, je pense que c'est par un Mitterrand. C'est Junger donc, qui a fait partie, a été appelé par Mitterrand et Helmut Kohl, qui en pense était un géant, et, pour la commémoration à Verdun, je crois bien.
Oui, de la réconciliation franco-allemande.
Voilà, et c'est un passage que vous expliquez très bien dans votre biographie. Donc, ça, l'approche qu'on a de Junger lui-même, est-ce que vous pouvez en parler, justement?
C'est-à-dire que Junger était vraiment très francophile. Moi, ça, c'est une chose qui ne pouvait que me faire plaisir. Hein. Vous êtes alsacien, vous avez les Allemands à côté de vous, donc vous avez une vision plus proche que celle d'un Parisien ou d'un Toulousain. Moi, je crois beaucoup au côté francophile de beaucoup d'Allemands, alors que beaucoup d'Anglais nous méprisent profondément. Il n'y a qu'à voir la presse populaire anglaise depuis les questions de vous. Je n'ose pas penser à ce que ça devrait être en ce moment avec le président. Mais il y a quand même un fond d'estime, de sympathie chez les Allemands, justement en tant qu'ancien adversaire loyal. Et tout ça a failli être totalement empoisonné par la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, les camps de concentration. Mais apparemment, on s'en est quand même bien sorti. Junger tenait beaucoup à l'amitié franco-allemande. Et moi, j'avais été très frappé par la façon dont il m'avait reçu, alors que j'étais un obscur petit prof de province, hein, son traducteur en Béclard lui avait dit que j'avais fait une bonne thèse. Donc, il est venu le voir en hiver, il avait du temps, il m'a reçu royalement. On a discuté, c'était une extrême cordialité. Je crois qu'il m'avait quand même demandé si j'avais fait mon service militaire. Il était assez content d'être un lieutenant de réserve. Enfin, sous lieu. Mais disons que il avait une attitude d'accueil de l'amitié franco-allemande, et du coup quand on lui a proposé de jouer un rôle dans ces cérémonies de réconciliation, il a été très heureux. En même temps, il était à distance de la politique. Il y a un moment où il y a deux présidents qui se succèdent, qui s'appellent tous les deux Helmut, enfin deux chanceliers, il dit un Helmut part, un Helmut arrive, enfin c'est très insolent.
Alors ça vous a permis de faire, justement c'est intéressant que vous arriviez sur l'amitié, votre rapport à Junger, puisque ça a permis aussi, au-delà de la charpente scientifique, méthodique, documentée, biographique, de donner un souffle. Et la question que je me suis posée en... C'est une question à laquelle vous avez l'air de ne pas répondre du tout, hein, parce que c'est aussi peut-être de votre intimité. Mais qu'est-ce que la fréquentation de Junger, en tant qu'homme, vous en gardez, ou vous avez le sentiment que ça vous a apporté? Je me suis posé la question de fréquenter comme ça une grande figure de la littérature telle que lui. Vous, en tant qu'homme, qu'est-ce que vous avez quelque part gardé de ça, ou,
d'abord, c'est très agréable de fréquenter un grand écrivain dont on admire les livres. Hein. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est un peu ridicule de dire ça. C'était pour une espèce de modèle de rectitude morale. C'est un personnage qui savait être très souple. Enfin, il aimait bien justement avoir quelques honneurs. Mais il a toujours été intransigeant. Et une des choses qui me frappe, on commence à publier des tonnes de correspondances. Enfin, c'est une œuvre énorme. L'édition allemande concrète a 22 volumes. Et encore, on republie des petites choses. Et donc, on a déjà maintenant 10 volumes de correspondances qui font facilement 600 pages. Hein. Et pour prendre une expression un peu vulgaire, en fait, je n'aurais pas dit ça, il n'y a pas de cadavre dans le placard. Il y a des gens, on tombe sur des trucs, ça ne sent pas très bon. Et là, je l'aimais bien, mais quand il y a toutes ces correspondances qui ont été publiées, je me disais, je vais peut-être tomber sur des choses qui ne me font pas plaisir. Non, pour l'instant, rien. Alors, il a été trahi par un certain nombre de ses amis. Gachné, par exemple, a parlé de lui de façon ignoble dans le glossario, dans un texte dont Schaffnitt avait dit qu'il voulait qu'on le publie. Une lettre de l'ancien éditeur, la famille Klett a édité beaucoup une œuvre, Ernst Klett, le père de Michael Klett, l'actuel qui s'apprête avec les éditions Klett-Cotta, très bien une heure en disant mais c'est épouvantable ce que j'ai honte de ce que Carl Schmitt est en train de dire de vous, et une heure dit vous savez, il souffrait de délire de la persécution à la fin de sa vie. N'en parlons pas, ça n'a pas d'importance. Donc il avait une espèce de noblesse qui allons voir aussi dans ses différents secrétaires, admirateurs. Enfin, il avait des admirateurs passionnés. Donc il y a tout un tas de basses petites intrigues. Et alors ils se critiquent les uns les autres. Le tel dit mais un tel, c'est une ordure, on n'est pas vu ce qu'il dit vous. Il dit peut-être. Mais enfin, il a du bon, il a écrit des choses intéressantes. Enfin, il a une espèce de bienveillance humaine vraiment extraordinaire. Et là, je cite un portrait de lui fait par quelqu'un alors, qui est bien oublié maintenant, mais qui a eu son importance, qui a été mis en prison par Hitler, qui représente la tendance qu'on appelle nationale bolchevique, donc qui était orientée vers l'URSS, mais nationaliste allemand, Ernst Nikisch. Et Ernst Nikisch fait un portrait en disant qu'il a rarement vu quelqu'un du telle rectitude morale. Et d'ailleurs, il y a une chose, Ernst Nikisch a été mis en prison, il en est sorti aveugle, et très 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 malade, enfin, il n'est pas mort, mais en 45, il a été libéré par les Russes, il était dans un triste état, et pour répondre aussi au problème de la résistance, Jünger avait dit à Ernst Nikisch, écoutez, vous devriez partir ou partir à l'étranger, là où vous cessez d'attaquer Hitler, vous êtes menacé. Quand un rhinocéros furieux fonce sur vous, il ne faut pas rester bon, il faut faire un pas de côté. Et Nikisch n'a pas voulu partir, et il en a longuement souffert. Voilà. Et Jünger avait dit aussi Karl Schmitt, quand Karl Schmitt, en fait, il faut le faire, je crois que c'est très clair, je comprends rien. clip qui, je crois, est très importante. Il y a aussi les redécouvertes par des gauchistes, aussi, actuellement. Beaucoup de gens s'intéressent en France à Carrefour. Moi, je ne peux pas en dire un mot, mais humainement, c'est un type médiocre. Et vous savez, il a justifié la nuit des longs couteaux. Hitler a zigouillé l'aile gauche de ce parti, Röhm, plus quelques officiers, pour faire bonne mesure, justement, il y a eu un petit peu du massacre à droite, enfin, c'était essentiellement l'aile gauche de Röhm, et Schmitt a justifié au nom de la raison d'État. Et il a discuté avec, ils étaient très amis, hein, ils étaient des liens familiaux, je ne vais pas vous raconter ça, Schmitt était parrain d'un de ses fils. Et Junior lui a dit, j'espère que tu as pensé à faire installer une mitrailleuse dans ta cave. Schmitt n'a pas compris. C'était un pauvre inconscient. Grand juriste, il justifie l'injustifiable au nom du droit. Et quand on lui dit que c'est quand même un sacré risque, ne comprend même pas qu'il a pris ce risque. Enfin, justement, on déborde pas trop.
Justement, j'allais proposer au public, alors on pourra peut-être prendre avec un nouveau essai de trois questions.
Oui, il y a deux choses. Ouais. Ouais, on pourrait rester deux heures. Ouais. On ne peut pas, ni vous ni moi. Il y a des choses dont on n'a pas à parler. Évidemment, c'est un grand voyageur. Un grand voyageur dans un esprit écologiste. Et quelqu'un qui s'est intéressé aussi aux drogues, aux LSD, enfin.
Ah, mais c'est intéressant, c'est pour ça. Moi, je ne peux que ramener des gens à la biographie. C'est un homme avec des passages, effectivement.